France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Demain, la Russie va célébrer en très grande pompe le 80e anniversaire de sa victoire sur l'Allemagne nazie, annoncée comme la plus grande fête de son histoire. Défilé militaire, délégations internationales, au-delà du faste d'une telle célébration en plein milieu de la guerre, la Russie compte sur sa culture pour redorer son image sur la scène internationale en critiquant notamment la prétendue cancel culture qui toucherait ses grands compositeurs, danseurs et écrivains chez les pays alliés de l'Ukraine. Car cette guerre ne se joue pas seulement sur le terrain militaire, elle a aussi une forte dimension culturelle. À mesure qu'elle est attaquée, l'Ukraine revendique son identité propre et veut dérussifier son patrimoine culturel, littéraire et urbain, comme on l'a vu avec les nombreuses statues de l'écrivain Alexandre Pouchkine déboulonnées dans les mois qui ont suivi l'invasion de février 2022. Alors comment la littérature a pu devenir un tel outil de l'impérialisme russe? Et Pouchkine, son représentant, pour tenter d'y répondre, une invitée ce soir, Victoire Feuillebois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de littérature russe à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France, et vous fait paraître ces jours-ci un ouvrage passionnant intitulé « Faut-il brûler Pushkin ?» C'est au CNRS Édition. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Et je l'ai dit en introduction, demain, le 9 mai, la Russie va célébrer en grande pompe le 80e anniversaire de sa victoire sur l'Allemagne nazie. Que représente, Victoire Feuillebois, pour le pouvoir russe, une telle journée de célébration?
Alors effectivement, c'est une date très importante pour le pouvoir russe parce que c'est le moment où il peut manifester finalement la déconnexion de la signification de cette guerre par rapport à la signification qu'elle peut avoir en Occident. On le sait tous, les Russes ne célèbrent pas la fin de la Seconde Guerre mondiale le même jour, mais ça va bien au-delà de ça. Le 9 mai, pour la Russie, c'est le jour de la victoire. Ça veut dire qu'on ne célèbre pas le retour de la paix. On célèbre en réalité le processus de la guerre qui a amené à vaincre le nazisme. Donc il y a une héroïsation de la guerre qu'on ne connaît pas du tout, nous, en Occident. On n'a pas du tout cette culture guerrière. Et évidemment, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ça vient consolider la militarisation de la société qu'on observe depuis février 2022.
Justement, comment Vladimir Poutine, inscrit-il ces commémorations, le 80e anniversaire, on l'a dit, dans le contexte épineux pour lui de la guerre en Ukraine?
Alors, ce qu'on observe dans ces commémorations qui sont habituelles, hein, c'est une date qui est commémorée depuis l'Union soviétique et dans la Russie post-soviétique, mais il y a un changement majeur là pour ce 9 mai, c'est le fait que cette cérémonie, elle sert à Vladimir Poutine à imposer en fait un nouveau narratif qui est que l'Union soviétique et donc son successeur, la Russie, aurait vaincu l'Europe nazie et pas l'Allemagne nazie. Et ça correspond à la genèse d'un nouveau concept dans la Russie contemporaine qui est celui d'eurofascisme et qui consiste à dire que l'Union soviétique a été la seule à résister au nazisme et que tous les pays occidentaux on fait partie du mouvement nazi, ce qui est évidemment une histoire totalement contrefactuelle.
Même conflit, même opposition à travers la culture. Désormais, on va entendre la voix de Vladimir Poutine. Il s'exprimait le 25 mars 2022 et parlait de cette culture annulée, cette culture russe annulée par l'Occident.
Aujourd'hui, l'Occident essaye d'ostraciser un pays millénaire. Je parle de la discrimination progressive envers tout ce qui touche à la Russie, de cette tendance qui se développe dans un certain nombre d'États occidentaux. On déprogramme des concerts de Tchaïkovski, de Shostakovich et de Rachmaninov. On interdit les écrivains russes et leurs livres. La dernière fois que cela s'est produit, c'était avec les nazis en Allemagne qui ont mené une telle campagne de destruction culturelle il y a 90 ans. On se souvient des images de ces livres brûlés en place publique. Il est impossible d'imaginer cela pour notre pays.
Est-ce qu'il dit vrai, Vladimir Poutine, Victoire Feuillebois, sur ce point-là? Est-ce qu'il est vrai qu'en Occident, on tente d'ostraciser, d'annuler la culture russe? Je pense par exemple à ce qui se joue en ce moment sur la scène de l'Académie française, dans la salle Richelieu. Une mouette, une réécriture contemporaine de La mouette de Tchekhov, mise en scène par Elsa Grana. Il me semble pas que la culture russe soit ostracisée.
Absolument pas. On n'a jamais. Vladimir Poutine essaye de construire un mythe selon lequel toutes affaires cessantes après février 2022, l'Occident aurait essayé d'annuler massivement la culture russe en partant sur certains événements qui se sont produits dans le monde culturel où effectivement il y a eu des déprogrammations. en général pas pour des raisons de condamnation morale de la culture russe dans son ensemble, mais pour des raisons très pratiques qui sont de deux natures. Une nature économique, il s'agissait de ne pas rémunérer des artistes russes dans un contexte de sanctions économiques, et d'autre part des raisons en fait d'opportunité de diffuser des spectacles dont parfois les programmes étaient inadaptés en contexte de guerre. Je donne un exemple, une suite de Tchaïkovski qui s'appelle la suite Petite Russienne, donc qui est le nom qu'on donnait à l'Ukraine au XIXe siècle. Dans le contexte de l'invasion, c'était pas le moment de le faire. Et on parle d'annulations qui sont produites vraiment dans les toutes premières semaines après l'invasion, à un moment où voilà, le public n'était pas bien disposé à recevoir ses œuvres. Mais si on regarde sur le long terme, il n'y a évidemment pas eu d'annulation de la culture russe en Occident. La littérature russe, l'art russe ne se sont jamais aussi bien vendus, n'ont jamais été autant montés qu'aujourd'hui. Il y a au contraire un intérêt pour la culture russe, pour essayer de comprendre les raisons aussi de la situation russe contemporaine.
Est-ce qu'il y a en revanche, côté ukrainien cette fois-ci, et d'ailleurs j'allais dire on pourrait le comprendre, une pression pour tenter d'écarter les artistes russes contemporains dans divers cénacles internationaux ou divers rencontres?
Alors, ça c'est vrai que les artistes ukrainiens ont un problème aujourd'hui pour partager l'espace culturel avec des artistes russes. Ça tient à deux choses. D'une part, il y a une politique du ministère de la Culture ukrainien qui leur demande de ne pas se produire aux côtés des Russes pour que ces images ne soient pas détournées par le pouvoir russe à des fins de propagande. Et d'autre part, il y a aussi une interrogation en fait sur la bibliodiversité ou la diversité culturelle, qui est que les Ukrainiens comptent vraiment affirmer leur identité via la culture dans le contexte du conflit, et que donc, si on donne aussi la parole aux Russes, ça veut dire qu'ils ont deux fois moins de place. Donc ils tiennent vraiment à cette idée que si on veut soutenir l'Ukraine, il faut lui laisser toute la place sur le champ culturel et ne pas l'associer systématiquement à la Russie.
Est-ce que les artistes, dans le fond, qui ne sont pas les plus ostracisés, j'allais y arriver, dans le sens le plus radical du terme, ce ne sont pas justement et notamment les artistes ukrainiens tués en Ukraine dans le cadre de la guerre, puisqu'on sait qu'ils sont nombreux au front et dans les villes à se faire assassiner?
Absolument. Il y a effectivement un décompte macabre des artistes, des écrivains, des danseurs qui ont été tués soit au front, vous le dites, beaucoup d'entre eux sont engagés, mais aussi dans des bombardements, puisque c'est une des spécificités de cette guerre, c'est de provoquer beaucoup de morts civiles par les bombardements. Il y a un cas qui a été très médiatisé, c'est celui de la jeune autrice Victoria Amelina, qui terminait un grand travail documentaire sur les violences sexuelles dans le contexte de la guerre. Elle devait le terminer à Paris, où elle avait reçu une bourse. Et en juillet 2023, elle a été tuée par une bombe qui s'est abattue sur un bâtiment civil. Donc son texte est resté à jamais inachevé.
On reste en Ukraine. Lorsqu'on parle justement dans ce contexte national-là de dérussification de la culture ukrainienne, de quoi s'agit-il d'abord et à quel point ce processus-là est-il avancé?
Alors c'est un processus qui en fait est reproduit en miroir le processus qu'on a bien connu dans l'espace post-soviétique après la chute de l'Empire soviétique et qui a consisté en fait à supprimer un certain nombre de symboles dans l'espace urbain de cette cohésion du monde communiste. Et donc ça s'est passé notamment par le fait de supprimer les statuts de dirigeants communistes. Au premier chef, Lénine, qui avait sa statue un peu partout dans tous les pays frères.
La politique avant la culture, alors?
Alors ça, c'est ce qui s'est passé dans les années 90. Là, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte qu'on observait le même phénomène, mais vis-à-vis des artistes, des écrivains, et au premier chef de Pushkin, parce que Pushkin, depuis le 19e siècle et jusqu'à nos jours, a toujours été utilisé par le pouvoir russe, puis soviétique, puis post-soviétique, comme un outil pour marquer la présence de la Russie sur son territoire et à l'étranger.
On va revenir sur Pushkin, mais je voudrais d'abord qu'on parle de la littérature russe en Ukraine d'une façon plus générale, à travers un reportage d'Arte, qu'on commentera après.
Le dernier livre en russe que j'ai acheté, c'était en 2015. Et à cette époque, il n'y avait pas autant de livres publiés en ukrainien. C'était difficile de trouver des livres de nos écrivains et nos poètes en ukrainien. Je ne veux plus garder ces livres, ni les lire. J'ai pensé les brûler, mais c'est mieux de les donner comme des vieux papiers, et ainsi aider les forces armées ukrainiennes.
Premièrement, et c'est important, nous ne détruisons pas les livres, nous les recyclons. Quand on a proposé aux gens de s'en débarrasser, ils ont d'abord cru qu'on allait les brûler. Mais non, ce n'est pas exact, nous les recyclons. Et nous ne forçons personne à donner sa bibliothèque, apporter ses livres, les détruire. Chacun fait comme il l'entend.
Extrait de La guerre des langues diffusé sur Arte et Victor Feuillebois. Je cite un extrait de cet ouvrage intitulé « Faut-il brûler Pouchkine ?» Vous écrivez « Quant aux discussions sur le canon russe de la littérature russe, elles sont plurielles. Le légendaire bar de Kiev, barman Diktat, qui fait aussi désormais office d'abri anti-aérien, héberge le club des passionnés d'histoire qui a organisé une séance pour déterminer si Gogol était russe ou ukrainien. La réponse ne fait pas consensus et les défenseurs du romancier sont nombreux. » Fin de citation. Cela signifie que dans le fond, il y a maintenant un débat pour tenter de comprendre quel écrivain russe pouvait potentiellement ou non soutenir l'Ukraine.
Oui, absolument. Il y a des discussions qui sont vraiment très actives depuis en fait le début de la guerre au Donbass et l'annexion de la Crimée en 2014 et qui se sont renforcées dans le cadre de l'invasion totale en 2022 pour en fait déterminer d'une part la part ukrainienne de ce qu'on considère ordinairement comme le canon russe, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qu'on caractérise comme russes, qui sont en fait nés sur le territoire de l'actuelle Ukraine. C'est le cas de Gogol, par exemple, qui est un des classiques de la littérature du 19e. Et puis aussi de savoir, à l'intérieur de ces auteurs un peu mixtes de culture, lesquels peuvent finalement se qualifier pour l'étiquette de grand auteur national. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des auteurs pour lesquels, il y a une espèce d'aura un peu sulfureuse. Ils ont une œuvre ancrée en Ukraine, qui parle de l'Ukraine, mais parfois, pas toujours de manière très positive. C'est le cas de Mikhail Bulgakov, par exemple, l'auteur du Maître et Marguerite, qui n'est pas en odeur de sainteté aujourd'hui du côté des activistes ukrainiens. Mais ça montre finalement qu'il y a une pluralité de manières de comprendre ce que c'est qu'un canon littéraire et quels sont les usages de la culture en temps de guerre. Et ça témoigne aussi de la vitalité culturelle de l'Ukraine d'aujourd'hui, où ces questions sont très activement débattues, mais sans qu'il y ait là non plus d'annulation systématique. On l'a vu, on brûle pas les livres, on trouve d'autres solutions. Voilà.
Et alors pourquoi Pouchkine ? Pourquoi Pouchkine cristallise en l'occurrence nombre de haine en Ukraine ? Quel regard Pouchkine même portait au sujet de l'Ukraine et de la nation ukrainienne ?
Alors, Pouchkine présente deux problèmes. Il y a un problème qui n'est pas de sa faute, qui est le fait que après sa mort, à partir de la fin du 19e siècle, il a été finalement érigé en barde de la nation russe et utilisé à la fois par les écrivains, mais aussi beaucoup par le pouvoir, comme symbole d'unification du territoire. Et ça s'est traduit notamment par le fait que pour coloniser son propre empire, en quelque sorte, le pouvoir russe mettait toujours des statues de Pouchkine, créait des instituts Pouchkine, des rues Pouchkine, qui permettaient finalement de montrer que la Russie était dans la place.
Expliquant ces statues déboulonnées.
Ça explique ces statues déboulonnées, effectivement, puisque c'est la trace d'un héritage impérial dont les Ukrainiens ne veulent pas aujourd'hui. Dans l'espace post-communiste, en général, là aussi, ces statues, elles ne sont pas détruites. Elles sont souvent réhabilitées dans des parcs mémoriels. Pour le moment, on ne sait pas si ça sera le cas en Ukraine, mais c'est peut-être le cas. L'autre problème qu'on a avec Pouchkine, malheureusement, c'est Pouchkine. Pourquoi ? Parce que c'est un auteur qui a vécu à une époque où, étant un Russe de Saint-Pétersbourg, aristocrate, éduqué, il porte sur l'Ukraine un regard assez dévalorisant. Et ça s'est traduit dans ses œuvres. Donc, aujourd'hui, les écrivains, les artistes ukrainiens ont tendance à aller chercher chez Pouchkine des extraits, des citations qui portent effectivement la trace d'un regard impérialiste et colonial.
Et une troisième raison, sans doute liée à la deuxième que vous venez d'évoquer, pour vous expliquer dans votre ouvrage que Pouchkine est aussi le promoteur de la conquête du Caucase. Et cela, pour les Ukrainiens, c'est fondamental et ça ne passe pas, si je puis dire.
Alors c'est très compliqué pour Pouchkine, parce qu'en fait c'est un auteur qui est farouchement opposé au pouvoir impérial au niveau intérieur, mais il est très favorable à la conquête impériale qui signale la grandeur de la Russie. Il y a une espèce de schizophrénie chez Pouchkine, parce qu'en fait il a toute sa vie voulu quitter l'Empire russe, notamment pour aller en France. Ça lui a toujours été refusé. Mais à un moment, dans un de ses exils, il accompagne l'armée russe dans sa conquête de l'Arménie. Et il dit, c'est formidable, à chaque fois que je pose le pied en dehors de l'Empire russe, en fait, l'armée a déjà conquis ce morceau de territoire et je suis toujours en Russie. Donc on a une espèce de clivage qui s'opère chez l'auteur, où, finalement, ce qui est de l'ordre de la conquête, pour lui, renvoie au fait qu'il est un grand écrivain dans un grand pays et est perçu de manière positive, alors qu'il a un regard extrêmement critique sur le pouvoir en général.
Il existe aujourd'hui un débat pour tenter de savoir si la littérature russe, si le canon russe, plus exactement, est une littérature dite impérialiste. Quel est votre point de vue, Victor Feuillebois, sur ce sujet précis, complexe également ?
Alors, ce qui me paraît évident, c'est que la littérature du 19e siècle, elle travaille avec l'Empire, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que il faut quand même se rappeler qu'au début du 19e siècle, la Russie est un petit pays, au moins jusqu'aux guerres napoléoniennes. C'est une nation qui est toujours en train de se construire, qui connaît une grande conquête impériale, qui a des frontières floues, et qui du coup va beaucoup utiliser les auteurs comme une espèce d'opérateur d'unification culturelle à l'intérieur du pays. Et à la fin du 19e siècle, cette unification est relativement terminée. Et là, la Russie devient une grande puissance coloniale qui va continuer à utiliser les auteurs, cette fois dans une visée expansionniste plus importante. Et en fait, les auteurs, dans ce contexte-là, c'est Pushkin est le cas le plus évident, mais il y en a beaucoup d'autres, les auteurs, finalement, servent comme instruments pour le pouvoir, mais eux aussi, en tant qu'écrivains du 19e siècle, ils considèrent qu'ils ont pour mission de promouvoir une vision unifiée de la nation. C'est le cas chez Pushkin, c'est le cas aussi chez Dostoïevski, par exemple, qui est un grand théoricien du panslavisme. Ça n'est pas une faute individuelle, personnelle, c'est aussi lié à ce contexte 19e-iste où l'écrivain est chargé de valeurs nationales qu'on connaît un petit peu moins en Europe de l'Ouest parce que cette dimension de construction nationale a été moins forte, mais qui est vraiment caractéristique de l'Europe de l'Est.
Si je vous dis avec un très très mauvais accent « narodnos », qu'est-ce que cela signifie et comment vous liez justement à ce sujet de la littérature russe comme objet et instrument politique ?
Alors, ce concept que vous avez évoqué, le concept de narodnost, c'est un concept qui est vraiment exemplaire de ce processus d'accompagnement du pouvoir par la littérature. Parce que c'est un concept qui désigne justement le caractère national. Ce qui fait que la Russie est spécifiquement la Russie.
La singularité russe.
La singularité russe, voilà, exactement. Et c'est un concept qui a d'abord été mis sur le devant de la scène par des écrivains et des théoriciens du romantisme au début du 19e siècle. Avant de devenir, 10 à 15 ans plus tard, un des instruments idéologiques du pouvoir russe qui en a fait un des instruments de l'autocratie.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un écrivain spécialiste et traducteur de la littérature russe. Il a notamment d'ailleurs traduit Dostoïevski, mais pas seulement, André Markovits.
Pushkin a dit ça dans un poème sur la naissance de l'Empire russe, Poltava, sur la victoire de Pierre le Grand sur Charles XII, et qui a créé l'Empire russe, en fait, et aussi sur la victoire contre les Cosaques ukrainiens, et donc qui a scellé la fin de l'indépendance ukrainienne. Pushkin, on a l'impression qu'il fait un hymne à ça, et en fait, il écrit « Так тяжким лад дробястекло кует булат », ça veut dire « Ainsi le lourd marteau, brisant le verre, forge l'acier ». Et pourquoi brisant le verre ? Et en fait, c'est une référence à un poème très important du XVIIIe siècle sur la nécessité du verre, sur la beauté du verre, parce que le verre, c'est tout fragile, ça n'existe pas dans la nature, c'est une création humaine. Et c'est ça que l'État brise, il brise l'individu. Et celui qui dit ça, c'est le poète.
André Markovits, interrogé par Ali Badou sur France Inter. Votre réaction, Victor Feuillebois ?
Alors, c'est très intéressant, la lecture d'André Markovits. C'est une figure qui est inattaquable quand on parle de la culture russe. Il a traduit, il a transmis. C'est vraiment une figure très importante. Malheureusement, quand il dit ça, il transmet une image un peu mythologisée de la culture russe comme étant une littérature naturellement d'opposition, naturellement résistante, naturellement éthique, naturellement humaniste. Je reprends une expression de Vladimir Poutine. Or, il me semble que c'est pas totalement le cas quand on lit l'œuvre de Pushkin. Pushkin n'est pas toujours un grand humaniste, un grand ami de l'humanité. Et à vrai dire, c'est pas ça qu'on lui demande. Voilà, c'est notre approche plus moderne des littératures consiste à dire que un grand auteur, c'est pas forcément quelqu'un qui est parfait dans tous les domaines de son existence. Il a le droit aussi à l'erreur. Et je pense que ce serait intéressant d'injecter justement ce type d'approche dans l'étude de la littérature russe, parce que ça la rend aussi plus proche des gens. Là, cette image, elle est très mythologisée, elle est très belle. On a tous en tête cette représentation des grands écrivains russes qui sont aussi des penseurs et des philosophes. Mais ce sont aussi des auteurs, on a envie de dire, normaux, qui ont leurs failles, qui font des erreurs. Certaines d'entre elles apparaissent dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et il faut quand même le dire.
Mais tout de même, Victor Feuillebois, si je tire le fil de ce que vous dites, on entend énormément le discours depuis le début de la guerre en Ukraine, discours selon lequel il faut distinguer le pouvoir russe de la littérature russe. Il faut distinguer Poutine et Pouchkine. Selon vous, ce discours-là pose problème ?
Alors, ce discours en général ne pose pas problème tant qu'il n'interdit pas de faire des lectures alternatives du canon, et notamment tant qu'il ne discrédite pas les lectures qui sont faites par les Ukrainiens du canon russe, parce qu'ils en ont parfaitement le droit, mais aussi par d'autres types de lecteurs qui ont aussi une sensibilité peut-être plus grande à la dimension politique de la littérature russe du 19e. Je pense aux Polonais, je pense à certains opposants français, voilà, des gens qui ont quand même un droit de regard sur ces textes-là et ont le droit de mettre en avant des éléments dans cette littérature qui peut parfois fâcher. Ça ne veut pas dire qu'on fait une équivalence entre Poutine et Pouchkine, mais ça veut dire qu'on regarde cette littérature justement de manière plus objective, sans cette espèce de grande aura qui l'exempte a priori de tout reproche moral.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'une écrivaine ukrainienne. Elle était invitée sur les matins du samedi sur France Culture, c'était le 3 juin 2023.
Mon choix de l'ukrainien, c'était en fait un retour vers mes racines, puisque une de mes grand-mères, puis une autre arrière-grand-mère, elle parlait l'ukrainien. Et si mes parents parlent russe, c'est à cause de la politique des Russes en URSS. Et donc maintenant, je ne parle plus le russe. Je n'ai rien contre les Ukrainiens qui le parlent encore, comme mes parents d'ailleurs. Mais moi, personnellement, je n'arrive pas à parler cette langue. Je suis un peu déçue quand on me dit, par exemple ici en France, que voilà, vous ne devez pas oublier la langue russe, c'est une grande langue, parce que je ne comprends pas c'est quoi la grandeur de la langue quand on est sous les missiles russes.
Victor Feuillebois, vous avez reconnu la voix de...
Ella Yevtushenko.
Voilà, que vous prononcez bien mieux que moi. Comment vous considérez là aussi ce qui est dit, ce rapport à la langue russe qui effraie désormais bon nombre d'Ukrainiens? C'est fascinant pour nous, j'allais dire, de voir des personnes qui volontairement changent leur langue et décident de parler une autre langue presque pratiquement du jour au lendemain.
Oui, c'est vraiment un mouvement extrêmement impressionnant qui se joue en Ukraine. L'Ukraine est un pays multilingue depuis très très longtemps et le russe et l'ukrainien ont toujours cohabité, bon alors évidemment selon les périodes, pas toujours de manière très harmonieuse, mais il y avait vraiment une présence du multilinguisme qui était totalement acquise. Et là, depuis 2022, il y a une révolution complète qui vient toucher parfois l'intérieur des familles, parce qu'on dit toujours que le russe et l'ukrainien connaissent une répartition géographique en Ukraine, mais c'est aussi des langues qui ont parfois des usages différents. Donc, par exemple, quelqu'un peut parler ukrainien dans la rue à Kiev, mais russe dans sa famille quand il rentre dans son appartement. Et ça, c'est en train de changer, et ça renvoie à des fonctions de la langue, voilà, intimes, civiles, civiques, complètement différents. On en est qu'au début, donc c'est très difficile d'évaluer ce changement et les transformations qu'il va avoir sur la culture de l'Ukraine en général. Mais c'est vrai que ça a mis le projecteur sur des auteurs qui écrivaient en ukrainien et qui jusqu'ici avaient quand même du mal à se faire connaître et souvent à se faire exporter au-delà de l'Ukraine.
Merci beaucoup Victor Feuillebois. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage paru au CNRS Édition. Faut-il brûler Pouchkine ? Restez avec nous car Stanislas Vazak nous a rejoint et il a une nouvelle annonce. Nous annoncer le nom du nouveau pape, Stanislas.
Eh oui, Habemus Papam, en l'occurrence il s'agit de Robert Francis Prévost, 69 ans. Il devient ce soir le premier pape américain. Il portera le nom de Léon XIV. Natif de Chicago, ce proche collaborateur de François, discret et réservé à la réputation au sein de la Curie, le gouvernement du Vatican d'être un modéré capable de concilier des points de vue divergents. Le cardinal Prévost, alias désormais Léon XIV, est en train de s'exprimer depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. Il doit notamment, dans les minutes qui viennent, prononcer sa première bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Nous reviendrons bien sûr demain sur l'élection du premier pape américain, Robert Francis Prévost, Léon XIV.
Léon XIV, premier pape américain. Merci à vous Stanislas Vazak et merci encore à Victor Feuillebois pour cet échange.